RMC.fr, de quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à tous et bienvenue dans le club des passionnés des nouvelles techno. C'est De quoi je me mêle, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire, disponible exceptionnellement et exclusivement sur le web. Chaque semaine donc en téléchargement gratuit à partir du vendredi. Donc à la fois sur le site web d'RMC puis sur les principaux portails de podcast. Avec au menu pas mal de choses. Notre rendez-vous Fnac tout à l'heure et Pascal Petitpas qui sera là. On va vous aider à bien choisir votre écran plat pour les fêtes de fin d'année. Croyez-moi, il y a du boulot. D'autant que le dossier Fnac concernant les écrans plats vient de sortir. On fera le point et puis Pascal vous conseillera les meilleurs modèles du moment. Plasma, LED, LCD, quelles sont les meilleures technologies aujourd'hui ? On fera le point avec Pascal et puis je vous ferai découvrir un nouveau site. Peut-être avez-vous participé à l'explosion du site My Major Company. Vous savez, c'est ce fameux site où on peut miser sur un artiste, un chanteur. D'ailleurs, le chanteur Grégoire est devenu une star grâce à My Major Company puisque son album a été financé. Il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires. Et bien, après My Major Company arrive People for Cinema. C'est à peu près le même concept, sauf que vous allez pouvoir miser sur des films qui vont bientôt sortir au ciné. Et pourquoi pas vous faire un petit peu d'argent tout en devenant un peu producteur. Je recevrai tout à l'heure Simon Istolainen qui est à la fois le cofondateur de My Major Company mais aussi de ce nouveau site People for Cinema. On parlera donc de ce raz-de-marée en fait d'internautes communautaires et qui investissent sur des artistes, sur des films et pourquoi pas même sur des joueurs de foot tout à l'heure. Et pour débuter bien sûr c'est notre rendez-vous avec toute l'équipe de Micro Hebdo et de 20 minutes c'est le club de la presse IT. Enfin quand je dis toute l'équipe c'est les représentants qui sont là hein,
voilà,
quand même. Hein. Voilà parce qu'ils sont deux.
C'est
une petite équipe mais elle est plutôt costaud.
C'est pas la quantité qui compte.
Exactement. Frédéric Boutier, bonjour.
Bonjour.
Qui bien évidemment vous le savez est rédacteur en chef adjoint de Micro Hebdo, hein, bien évidemment, le rendez-vous, le magazine hebdomadaire dédié à toute l'actualité de la micro. Et puis bien sûr, Christophe Joly qui est là. Bonjour Christophe.
Bonjour François.
Rédacteur en chef adjoint du quotidien 20 minutes. Alors toute l'actu high-tech va être passée au crible maintenant. On va commencer par vous Christophe et Logitech qui sort une nouvelle Squeeze Box. C'est un appareil que moi j'ai testé il y a quelques temps de cela et qui est plutôt sympathique.
Ouais, c'est un appareil qui nous a bien plu aussi. C'est donc Logitech, vous l'avez dit. La Squeeze Box Radio est vendue 179€. L'intérêt de ce petit boîtier, c'est de pouvoir écouter toutes les web radios. Alors les radios nationales évidemment, RMC en l'occurrence, mais aussi toutes les radios.
Bien. Voilà. Et les podcasts France, aussi en plus. Hein.
Voilà, les podcasts, surtout les podcasts. Et aussi toutes les radios du monde entier. C'est vraiment l'intérêt de ce produit. Alors, ce genre d'appareil n'est pas complètement nouveau. Là, l'intérêt, c'est que le look est assez sympa. Avec de bons gros boutons, ça fait penser aux radios des années 50. On a trouvé que c'était vraiment très très joli. La qualité d'écoute est dans la moyenne. Philips a des produits analogues avec une qualité meilleure. Si ce n'est que là, c'est quand même pas mal. La particularité de cette Squeezebox Radio, c'est de pouvoir configurer la radio en fonction de, disons, depuis son ordinateur. Donc vous allez pouvoir par exemple utiliser Deezer, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Vous allez mettre des applications dessus. Vous allez pouvoir aussi utiliser Flickr pour pouvoir consulter des photos. La seule chose un peu dommage, c'est que l'écran ne fait que 5 cm de diagonale, donc il est tout petit. Donc
pour regarder les photos de Flickr, il faut se lever tôt. Hein.
C'est quand même pas génial.
Je crois qu'il y a même une appli Facebook, non ? Des choses comme ça.
Voilà, vous pouvez suivre l'actu de Facebook aussi sur la Squeezebox. Donc globalement, c'est convivial, c'est polyvalent, donc c'est assez bien conçu. On a néanmoins quelques bémols à émettre, notamment le fait qu'il faille acheter un pack d'accessoires pour avoir une batterie et une télécommande à 49€. On trouve ça un peu dommage pour un produit qui en coûte quand même 179. Hein.
Voilà. Et en fait, Squeezebox, c'est toute une déclinaison de produits. Hein. Vous avez une télécommande aussi, Squeezebox. Enfin bon, il y a pas mal de choses. Frédéric, ça vous plaît ce genre de produit ?
Ouais, je l'avais testé. J'avais été étonné par la facilité
de configuration.
De configuration, parce qu'en général, ce genre de matériel, quand on veut le connecter à notre
émetteur
Wi-Fi et tout. Déjà, j'ai deux mains gauches en plus, mais là, franchement, il est bien. Un peu cher, mais la qualité est pas mal. Ouais.
Il y a un truc aussi qui est pas mal. Logitech fait pas mal de choses sympas, comme par exemple cette télécommande, vous savez, universelle, là, qui est sortie il y a quelques temps de cela, qui aussi Harmony. Se configure, Harmony, qui se configure en deux temps, trois mouvements, simplement la connectant sur votre PC, vous installez un petit logiciel. Et on vous répond à des questions, tout simplement. Donc là, ça, jusque-là, si on arrive à lire, on s'en sort. Et puis, votre télécommande se configure assez rapidement.
C'est le prix, hein, quand même, qui fait mal dans le cas de l'harmonie.
Elle est cher, oui, elle est à plus de 200€, je crois. On va parler de photos maintenant, Christophe, avec le Coolpix tactile.
Oui, c'est une première. Pour la première fois, un appareil photo dispose d'un écran entièrement tactile. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun bouton, si ce n'est le déclencheur quand même. C'est bien le moins, c'est quand même assez pratique. Pour le reste, tout se passe via un bel écran hein, qui fait quand même 3 pouces et demi de diagonale, donc 8,9 cm. Alors nous, on avait quelques appréhensions, on va dire, parce qu'on se dit que les boutons d'accès direct, c'est quand même pas mal. Bah, dans les faits, vous avez une, vous tapez Home sur l'écran, vous accédez tout de suite au menu principal, et là, vous avez les petites icônes qui permettent d'accéder au flash, à la détection de visage, à la correction d'exposition, au suivi de sujet, au mode rafale, balance des blancs. Tout se fait de façon très intuitive, donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à dire. On a trouvé que c'était...
Parce que c'est un peu casse-gueule quand même, hein, l'ergonomie voilà. Tout tactile, oh là là. Histoire d'être à la mode, on va faire, tiens, je vais faire un truc tactile, vous allez voir. Et puis après, à l'utilisation, c'est injouable.
Et dans les faits, il n'a pas grand-chose à envier à l'iPod Touch, qui fait quand même référence en matière de convivialité.
Pas mal.
Vous pouvez ensuite faire défiler les photos, comme avec un iPod Touch ou un iPhone, vous savez, en glissant le doigt à droite ou à gauche. Vous pouvez zoomer en écartant le pouce et l'index, donc ça, c'est bien vu aussi.
Il y a même un accéléromètre. C'est multi-touch alors.
Voilà, c'est multi-touch. Il y a même un accéléromètre. On l'a testé pendant une bonne semaine et globalement, il nous a séduit. Il ne sera pas uniquement destiné aux geeks, à ceux qui ont envie du dernier produit à la mode. Le grand public pourra même y succomber. Il est lumineux, même en plein soleil, c'est quand même vraiment bien pour un écran. Donc finalement, ce n'est pas un gadget, ça nous a convaincus. Vous pouvez même filmer de la vidéo en HD, parce qu'il s'agit aussi d'un appareil photo. Donc ouais. Les photos sont convaincantes, la vidéo est convaincante, et le prix est dans la moyenne, puisqu'on est à 299 €. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un 12 ouais. mégapixels.
Et l'autonomie ? Parce qu'il y a un truc comme ça.
Prenez une photo et puis c'est fini.
Voilà. Bah, c'est bien. Vos questions.
Non, mais c'est bien. Bon, après, c'est une question. Est-ce que c'est la mode c'est toujours la question qu'on peut se poser. Est-ce que voilà, ce raz-de-marée tactile, c'est une mode
On en reviendra.
Ou est-ce que c'est quelque chose qui va révolutionner finalement les usages de l'électronique? On verra. Quand on voit l'iPhone, on se dit que c'est vraiment une révolution. Après, bon, c'est vrai qu'il y a certains produits qui sortent qui sont moins révolutionnaires.
Hein, je crois que ça n'est pas une panacée. Hein.
On va voir. On va parler de Denon maintenant, grande marque de Hi-Fi devant l'internet qui fait de super produits comme des chaînes Hi-Fi, même des petites chaînes Hi-Fi Denon qui ont un son incroyable. Ils se mettent maintenant au casque.
Voilà, avec un casque qui nous a séduit lui aussi. C'est un casque intra-auriculaire dont je vous donne la référence, AHNC600.
Une fois que merci.
Je l'ai dit, voilà. C'est pas un virus.
Hein, je n'ai pas éternué.
Non, c'est la grippe AHN600.
voilà. Donc là, c'est un casque qu'on va recommander à tous ceux qui voyagent beaucoup dans les trains ou dans les avions par exemple, puisqu'il a un système anti-bruit. Vraiment très pertinent. Alors, système anti-bruit, c'est pas très nouveau. Hein. Là, à la différence près qu'il a un système, par ailleurs, qui renforce la dynamique des morceaux écoutés. Et vraiment, on l'a testé lors de voyages en avion, par exemple. On n'a pas pris l'avion rien que pour ça. Mais ça a été l'occasion de le tester. Et ça nous a vraiment séduit.
Quand même, hein, je sais pas, minutes. Enfin, juste, comme ça. Hein.
Justement,
pour faire un Paris-Nanterre.
un petit avion. Voilà,
donc les deux fonctions, réducteur de bruit et renforcement de la dynamique des morceaux, vous appuyez sur un petit bouton, sur un petit boîtier connecté en filaire. Ça fonctionne avec une pile AAA, vous savez, les toutes petites piles. L'autonomie de 40 heures, donc c'est quand même pas mal. Donc ça nous a vraiment séduit. Le prix est un peu élevé en revanche, c'est 149 €.
Ah oui. Bah oui, mais bon, c'est des donnes aussi. Hein.
Voilà. Attendez. Mais la qualité est là.
Moi, j'aime bien ces petits casques quand on prend l'avion de temps en temps, parce qu'on n'est pas tout le temps dans l'avion aussi, mais c'est bien d'avoir ce genre de produit pour être isolé. Pour
voilà,
reposer.
Ça fait boule qui est en même temps.
Oui. Exactement.
Et les résultats sont incroyables.
En plus. On va parler maintenant d'une attaque concernant l'iPhone. On croyait l'iPhone intouchable au niveau sécurité. Eh bien non.
Eh bien non, voilà. Alors, ça ne concerne que les iPhones qui ont été jailbreakés. Donc ceux qui ont été...
qui ont bidouillé leur iPhone.
Voilà, qui ont bidouillé leur iPhone.
C'est pas beau, ça.
Pour le moment, ça ne touche...
punition divine.
Voilà, ça vous apprendra.
Alors, pour l'instant, ça ne touche que le continent, disons, que l'Australie. Et en fait, ceux qui
ont... Oui, c'est ciblé, quand même.
Voilà, mais attention.
On n'est pas à côté, quoi.
Si un jour, vous voyez sur votre iPhone, en fond d'écran, en wallpaper, l'image de Rick Ashley, je ne sais pas si vous voyez,
ouais. 80... Et c'est un méchant virus, alors, quand même.
Voilà, je vois bien, ouais.
Ça veut dire que iKey vous aura infecté votre iPhone. Donc, voilà, c'est juste pour montrer
Rick Ashley, donc.
Voilà, Rick Ashley, c'est une blague hein, de quelques pirates qui se sont amusés à ça, si ce n'est que ça montre que l'iPhone, quand il est jailbreaké, est vulnérable. Hein.
C'est un proof of concept. Il y avait déjà eu un virus comme ça pour téléphone qui s'appelait Skulls, qui remplaçait simplement les icônes par des têtes de mort. Ça ne faisait rien d'autre, mais en effet, c'était pour rigoler, mais pour tester quand même la faisabilité de la
chose. Pour voir si c'était,
pour montrer,
si ça pouvait se répandre aussi. Mm-hmm. Donc, si vous avez comme fond d'écran Rick Astley un jour, bon, déjà cachez vite votre téléphone, histoire qu'on se moque pas trop de vous, quand même.
On vous précise, si vous l'aviez mis avant, non, c'est bon.
Non, mais c'est bon. C'est bon. Mais à ce moment-là, non. Si vous l'avez mis avant, faites-vous soigner quand même.
Voilà,
pour mettre en fond d'écran Rick Astley, il faut quand même se lever tôt.
Hein. Moi, je me sens pas concerné. Mon téléphone n'est pas jailbreaké.
Il n'est pas jailbreaké ?
Non.
C'est très bien.
N'est-ce pas ?
Vous avez un iPhone ?
Non.
Non ?
Non.
Ah, c'est donc vous.
Mais voilà.
Qu'est-ce que vous avez comme téléphone, tiens, Fred ?
J'ai une vieille chose de 2004.
Ah oui, d'accord.
Parce que voilà, on m'a volé le mien il n'y a pas longtemps.
Oh.
Mais moi, j'aime bien Android. Hein. Je vais peut-être voir ça là bientôt.
Et c'est vrai que ça commence. Eh bien, on va en parler dans un instant, tiens, justement, puisque vous avez un comparatif sur les smartphones. Comment bien choisir son smartphone ? On va continuer, tiens, avec le N900 de Nokia qui s'apprête à sortir et qui va disposer d'une appli pour le moins originale.
Oui, assez originale. Elle vous permettra de calculer et de compenser votre bilan carbone, on va dire, les émissions de CO2 émises lors d'un trajet en avion. C'est-à-dire que vous allez sur cette application, vous allez mettre la ville de départ, la ville d'arrivée, vous allez préciser s'il s'agit d'un aller-retour ou d'un aller simple, et ensuite le volume de CO2 produit sera automatiquement calculé. Et la grosse nouveauté, c'est que vous pourrez compenser et payer directement par prélèvement bancaire. Voilà.
Ils sont là, forts,
c'est clair.
Ils sont très très forts.
Et donc là, vous allez me dire combien ça coûtera, par exemple, pour un Paris-New York aller simple, François ?
15 euros.
34.
Mais vous n'y êtes pas. Jean-François, vous êtes plus près, c'est 18,07 €.
Bien, enfin, j'étais pas loin.
Voilà. Vous prenez très souvent l'avion pour New York.
Oui, voilà, c'est ça. Et
puis, votre bilan carbone n'est pas top, François.
Je suis tellement éco-friendly, moi.
Et ce à quoi il faudra quand même ajouter le prix du téléphone, 539 € voilà. Hors forfait.
Ah oui, d'accord. Bah, oui. 539 €.
Pour avoir l'application, il faut avoir le téléphone.
Excusez-moi.
C'est pas la taxe carbone du téléphone.
C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais.
C'est un prix hors forfait.
Là, c'est la taxe tout court, en fait.
Non, il n'est pas si cher, c'est un prix hors forfait.
Oui, cela dit, ce N900 est très attendu par les Nokiaphiles, parce que, en fait, c'est le premier téléphone Nokia qui ne fonctionne pas sous Symbian. Vous savez, qui est le système d'exploitation propriétaire de chez Nokia. En fait, c'est il est sous Linux. Donc voilà, il est très attendu pour voir si
comment ça marche.
Il marche un peu mieux que les téléphones sous Symbian. On va parler de Microsoft maintenant. Microsoft qui a décidé d'arrêter, enfin de limiter l'hémorragie des Xbox 360 piratés.
Voilà, depuis quelques temps, vous allez pouvoir voir sur les sites américains eBay ou Craigslist que y a beaucoup de consoles qui sont à vendre, tout simplement parce que leurs propriétaires mettent que depuis quelques temps, ils n'arrivent pas à jouer en ligne sur le service Xbox Live. Et pour cause, parce que Microsoft a décidé de désactiver l'accès au service pour toutes les Xbox, non pas pour toutes, mais pour de quantité de Xbox qui ont été modifiées. En fait, il s'agit évidemment de lutter contre les jeux piratés. Voilà, ça se chiffre.
Parce que c'est vrai que la Xbox est quand même aujourd'hui sous le feu des pirates. Mm-hmm. Et on peut très facilement, en fait, en suivant des bidouilles qu'on lit sur Internet, casser les protections et copier des jeux et les installer sur sa machine.
Voilà,
en fait.
Donc désormais, ils ne peuvent plus jouer en ligne. Microsoft refuse de confirmer le nombre de consoles concernées. Il est estimé à quand même à 500 000, donc c'est quand même pas anodin. Et la réponse de Microsoft, en revanche, c'est qu'effectivement, il s'engage à combattre le piratage de façon la plus virulente qui soit.
C'est pour ça qu'il ne faut jamais acheter une Xbox 360 sur eBay. Car parfois, ce sont des Xbox craquées qui n'ont plus d'accès au live.
Et, voilà.
Et en fait, on
c'est
l'achète,
pour ça
qu'ils
veulent
bien embêté.
Bah oui.
Parce que les mises à jour des jeux, plein de jeux, enfin, en gros, quand on n'a plus accès au live,
on peut jouer tout seul.
On peut jouer, oui, tout seul, déconnecté.
On peut jouer tout seul, mais dès que vous vous connectez au web, en fait, Microsoft détecte que la console a été piratée. Et là, paf. Et paf le chien. On reste toujours avec Microsoft qui dément avoir piraté macOS 10.
Voilà, alors dans
non, parce que bon, d'un côté, on peut pas dire d'un côté on bloque les Xbox 360 piratés et pirater un système d'exploitation, c'est pas possible.
Voilà.
En tout cas copier, on va dire. Hein.
Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un employé de Microsoft a répondu à une interview en disant que une des choses que les gens répètent tout le temps à propos du Mac d'Apple, c'est que le système d'exploitation est fantastique, très graphique et facile à utiliser. C'est le monsieur de Microsoft qui parle. Ce que nous avons essayé de faire avec Windows 7 ou 7 en termes de graphisme, c'est de créer le look et le feeling Mac. Et boum, évidemment.
Et boum. Oh Dieu, et paf le chien.
Voilà,
deuxième
et paf le chien. Dans la foulée, un communiqué de Microsoft est tombé pour dire malheureusement, ces propos sont venus d'un employé de Microsoft qui n'a été impliqué sur aucun aspect du design de Windows 7. Cela me fait de la peine de dire.
Il est pizza yolo maintenant, voilà, bien, c'est juste pour vous dire. Hein.
Il est technicien métier. De surface.
C'est un petit peu ça. Et ses propos sont inexacts et mal informés. Voilà, je trouve ça assez drôle quand même. On ne sait jamais trop qui a copié qui d'ailleurs. Hein.
Merci Christophe.
Merci à vous.
Tous ces titres que vous pouvez retrouver évidemment dans le quotidien 20 minutes et sur 20minutes.fr. Mon cher Frédéric Boutier,
oui.
Micro Hebdo, attention, c'est le numéro 604, ça ne rigole pas. Tout de vert vêtu hein, pour les meilleures astuces pour votre navigateur. Affichage, navigation, signé, vie privée, ça c'est le dossier de couve, comme on dit, dans le jargon. Mais nous, on va s'intéresser en fait à deux autres sujets que vous évoquez donc dans ce numéro 604. Le nouveau Photoshop qui est en fait maintenant en bundle avec, avec Premiere, hein, que vous avez testé. Donc Photoshop, immense logiciel de retouche photo, etc. Première, montage, logiciel de montage vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces nouvelles versions?
Alors donc, on précise donc c'est Photoshop Elements, hein, parce que donc le Photoshop tout court, c'est pour les pros, ça coûte très cher. Pareil pour Premiere, donc la version Elements, c'est pour c'est grand public.
Là, c'est plutôt accessible.
Alors, il faut juste aussi préciser qu'on peut acheter les deux séparément. Mais quand on les achète séparément, ça coûte 100€, 99€. Et si on achète le package, c'est 150€ les deux.
Donc on gagne 50%.
Bah voilà, c'est une sorte de suite d'images qui est pas mal.
D'accord.
Donc sans trop rentrer dans les détails, donc c'est une énième évolution de, du logiciel de retouche d'images pour Photoshop qui est vraiment très accessible et très très complet. Mais ils ont rajouté, en fait à chaque version ils rajoutent des petits trucs un peu rigolos comme ça, mais qui sont vraiment bluffants techniquement. Par exemple, on avait parlé il y a quelques temps d'un site, enfin d'un service en ligne qui s'appelait resizer.com. Et en fait, quand on regarde la version 8, on retrouve exactement la même interface, donc ils l'ont réimplémentée en fait. Et c'est bluffant, c'est par exemple, François, vous êtes sur une belle plage de sable fin à côté d'une femme superbe et j'ai envie
comme
de garder la femme superbe, mais de vous enlever de la photo.
Sauf
que c'est très compliqué, il faut que je vous détoure, il faut que je rajoute en fait à l'endroit où vous y étiez en fait du sable, la mer,
les choses. Je me battrai contre les pixels, vous ne pouvez pas m'enlever, je reviendrai.
Eh bien si, avec Resizer, il suffit simplement de vous peindre en rouge, d'appuyer sur un bouton et l'algorithme va calculer ce qu'il aurait dû avoir derrière vous sur la photo en prenant les pixels d'à côté.
Incroyable.
Et c'est bluffant de réalisme derrière. Ça marche très très bien.
Je vais transformer par du sable et de l'eau de mer.
Par exemple. Mais sans douleur.
Sans douleur.
Bien sûr.
Oui, mais cette pauvre jeune fille, qu'est-ce qu'elle va faire toute seule?
Ah bah elle s'étiole.
Elle s'étiole.
Voilà,
merci,
exactement.
Frédéric. Il y a d'autres petits gadgets comme ça?
Oui, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Mais même sur Premiere, parce qu'en fait, sur la retouche d'image, c'est assez facile, mais sur de la vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Et on trouve par exemple sur Premiere Elements 8 des éléments qui avant n'étaient accessibles qu'à des logiciels très professionnels qu'on pouvait voir sur Canal+ ou les choses comme ça. Là, par exemple, je filme François en train de courir sur la plage à côté de cette femme superbe.
Toujours.
Non, il est toujours sur la plage.
Mais je veux cacher son visage parce que je suis jaloux, donc par exemple je peux prendre une photo d'un masque, je l'incruse dans la vidéo, je la mets sur votre visage à la première image, et après je dis au logiciel je veux que ce masque reste toujours sur le visage de François même quand vous bougez, et en fait même si vous bougez dans le cadre, le système est ancré et vous suit tout le temps.
D'accord.
Et c'est d'une facilité déconcertante.
Mais alors qu'est-ce qu'on voit au résultat? On voit que c'est un floutage, enfin qu'il y a un masque à la place de mon visage. C'est tellement bien fait qu'on se dit tiens, il portait un masque quand il a fait le zouave sur la plage, ou quand même
Peut-être pas à ce point-là, mais on va dire, on pense quand même que la personne a fait image par image le suivi et tout, alors qu'en fait, il suffit de cliquer une fois.
En deux, trois tremblements, c'est fait.
Voilà. Quoi que je vous mette sur la plage avec un masque de Mickey.
Merci, Christophe. Faites attention, Christophe. Faites attention.
C'est promis.
Frédéric, donc ça c'est pour Photoshop, donc Element Suite et Premiere Element. Vous le disiez, 150€ le pack des deux logiciels.
Exactement.
Il n'y a pas de version Mac hein.
Va y avoir des versions Mac, oui. En fait, avant, il y avait quelque chose en moins ou des petites choses en plus sur les versions, mais là maintenant, ça va être pareil. D'ailleurs, Premiere Elements, bizarrement, si vous suivez un peu, ils sont passés, je crois, de la 4 à la 6, en fait, pour récupérer à peu près le même niveau pour faire des packages.
Oui.
Mais donc maintenant, ça va être la même.
Il faut dire qu'ils ont quand même une sacrée concurrence sur Mac parce qu'il y a Final Cut.
Exactement.
Qui est le logiciel de montage vidéo au top. Quoi.
Autant en photo, bon, Photoshop, hein, et là.
Autant
en vidéo, c'est vrai que ça.
C'est plutôt Final Cut sur Mac. On va terminer par comment bien choisir son smartphone.
Ben oui, on en parlait justement.
Voilà, page 46. Benoît a testé pour vous.
Benjamin, excusez-moi.
A testé donc tous les smartphones qui étaient disponibles.
Bon, de toute façon, il en a toujours trois dans sa poche, donc il connaît bien. On lui a dit vas-y, maintenant,
il faut
qu'il en ait
un joli papier. Il s'en rendait pas compte.
Tout à fait. C'est endormant. Voilà. Donc, avant, c'était assez facile. Si on voulait quelque chose d'un peu évolué, il y avait l'iPhone et puis voilà. Symbian, on en a parlé tout à l'heure dans les téléphones Nokia, était un peu à la ramasse, même si ça va bientôt changer avec le système dont vous parliez qui va s'appeler Maemo 5, on attend vraiment ça avec impatience. Et Windows Mobile était vraiment un peu à la ramasse.
Ouais.
Tout ça est en train de changer. On a le nouveau Windows Mobile.
Windows Phone,
donc il va équiper tous les Windows Phone, entre guillemets.
Windows 6.5.
Qui est le 6.5, en fait, qui est beaucoup plus simple graphiquement et plus joli que ceux qu'il y avait avant. Mais mais ça reste encore quelque chose d'un peu lourd.
Ouais, c'est encore un peu ardu. Pour l'avoir testé, là, c'est pas encore.
On arrive Ils pas ont fait des efforts, mais on n'arrive pas du tout.
Mais même si vous prenez, même si vous êtes plein de bonne volonté, vous dites, bon, allez. Je vais laisser ma chance quand même à Microsoft. Je vais oublier quelques petits défauts. Non, il y a quand même encore un fossé entre les deux. Hein.
Voilà. Et il y a Android aussi, le petit système de Google, qui lui est pas mal. Ça fait un moment que c'était sorti. On a attendu un peu en France avant de les voir arriver. Maintenant, ça commence à arriver.
Et donc, il y a le HTC Hero qui est excellent.
Ben voilà, moi, c'est celui que j'avais testé. J'étais bluffé. Quoi.
Ah ouais, ouais,
il est vraiment bien.
On est d'accord. C'est celui que vous allez prendre. Vous allez acheter, non?
Ben, je sais pas, parce qu'il y a encore d'autres qui vont arriver.
D'accord.
Il va bien falloir acheter un moment.
Et puis moi, j'attends, en fait, j'attends surtout Android 2.
Ah,
en France,
oui, qui arrive bientôt.
Pour avoir le système de GPS entièrement gratuit, enfin plein de choses.
D'accord. Oui, parce qu'on ne sait pas s'il y aura une mise à jour entre le Android
Exactement.
1 et Android
Exactement.
2.
Donc en fait, tout ça, ça fait que, bon, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? En fait, ça dépend un peu des usages. On va dire rapidement, là, quand même, que les deux qui sortent vraiment du lot, c'est évidemment l'iPhone et Android, en fait, qui est quand même vraiment pas mal. Par exemple, bon, pour tout ce qui est multimédia, écoute de musique et tout, parce qu'évidemment, un smartphone, ça fait tout. Bon, l'iPhone est très nettement devant, hein, évidemment. Il était déjà d'abord pensé pour ça, donc pour écouter de la musique ou regarder des vidéos, c'est vraiment le meilleur. En revanche, par exemple, pour surfer sur le net, c'est aussi une des applications hyper importantes. L'iPhone est vraiment le plus rapide et le plus souple d'usage. Mais en revanche, Android est vraiment le plus compatible, notamment avec les animations Flash, et c'est lui qui respecte le mieux les mises en page originelles des téléphones. Ouais. Donc là, ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous êtes un ultra habitué de Windows et vous échangez beaucoup de données ou de choses comme ça, bon, ok.
Oui, Windows Phone aura quand même un avantage.
Oui, par exemple, sur les fichiers attachés Word ou Excel, il les reconnaît nativement, donc il n'y a pas trop de problèmes. Mais voilà, ça dépend vraiment des usages. Les deux pour l'instant qui sortent vraiment, donc c'est iPhone et Android. On attend beaucoup du prochain système Nokia basé sur Linux.
Oui.
Et il y a aussi une chose à dire, c'est que ça dépend aussi pas mal du téléphone. L'iPhone, c'est facile, c'est sur un iPhone,
oui,
iPhone OS, iPhone, donc c'est extrêmement bien fait. Android, ça dépend vraiment de la plateforme. Il y avait le HTC Hero est très bien, ceux qu'il y avait avant.
Il y en a qui sont un peu moins bien, c'est vrai, voilà. Effectivement. Donc, pas facile de choisir son smartphone, mais justement, vous nous mettez un petit peu le pied à l'étrier pour bien choisir. Merci beaucoup. Frédéric Boutier, rédacteur en chef adjoint donc de Micro Hebdo, le numéro 604 qui est dans les kiosques à 1,95€, mesdames, messieurs.
Seulement.
Et vous payez. Bon, est-ce qu'on peut payer en 10 fois sans frais? Non, c'est pas possible. Ça nous ferait 19,5 centimes x 10.
Voilà, c'est ça.
C'est pas possible?
Pas sans frais. Il doit y avoir un centime de plus. J'en parlerai, mon service marketing.
Fred, merci. Merci à Christophe.
Merci à vous.
Et vous restez avec nous. De quoi je me mêle revient dans tout de suite. Hein. On va poursuivre avec notre rendez-vous Fnac Pascal Petitpas. Et puis juste après, on découvrira People for Cinema. À tout de suite.
RMC.fr, de quoi je me mail, François Sorel.
Le retour de quoi je me mail sur RMC.fr, l'actualité des nouvelles techno. Pascal Petitpas est là. Bonjour Pascal.
Bonjour François.
Pascal Petitpas, directeur des labos Fnac. Chaque semaine, allez, pendant un gros quart d'heure, on rentre dans ces labos secrets. Pour un peu moins secrets d'ailleurs, hein, grâce à nous, hein, depuis de nombreuses années maintenant. On vous les fait découvrir, on vous les fait visiter. Et grâce à ces labos, on découvre toutes les technologies qui nous entourent et puis on essaye avec Pascal de vous conseiller pour bien choisir si vous devez acheter. Alors la semaine dernière, c'était un appareil photo compact. Cette semaine, c'est un gros dossier à l'approche des fêtes de fin d'année. L'écran plat. Alors là, c'est vraiment très compliqué de choisir un écran. Aujourd'hui, vous rentrez dans un magasin, alors ça peut être une Fnac ou un autre magasin. Vous êtes agressé par tous ces écrans, il y en a partout, avec de belles images la plupart du temps. Hein. C'est vrai que quand on rentre comme ça, difficile de comparer. LCD, plasma, LED, avec maintenant cette nouvelle technologie qu'il y a là. Pascal, pas facile. Ah, bonjour Pascal, au fait.
Mais oui, bonjour François. Alors c'est vrai, pas facile. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé, puisqu'on a changé tous les dossiers, de donner, en dehors de la partie test qui permet de comparer les produits les uns par rapport aux autres, grâce à notre matériel très sophistiqué, déjà de donner quelques petites aides un peu. Je suis dans un magasin, je rentre dans un linéaire qui est colossal. Oui. Qu'est-ce que je dois regarder déjà? Qu'est-ce que je dois regarder au niveau des noirs, au niveau de la couleur, au niveau du mouvement, au niveau de l'axe? Voilà. Donc on donne déjà des petits conseils. C'est la première page que l'on ouvre dans le dossier qui vous explique déjà quoi faire lorsqu'on est devant un linéaire et déjà comment... sélectionner la taille qui vous convient le mieux. Ce qui fait que si vous lisez attentivement cette première page, eh bien, des 150 télés qui sont dans un linéaire, je suis prêt à parier qu'il n'en reste plus que, allez, 8 ou 10. Finalement.
D'accord. Après, c'est vrai que la taille, ça, c'est un problème. Parce que la taille dans un magasin, on ne se rend pas compte de ce que ça représente chez nous.
Bien sûr.
On est d'accord. Vous prenez un 82 cm, vous vous dites, ah, c'est super à la maison, vous rentrez, c'est tout rikiki, vous êtes loin, vous ne voyez pas grand-chose, etc. Donc, le conseil qu'on peut vous donner, Pascal et moi-même, surtout, voyez grand en termes de taille d'image. Vous ne le regretterez pas.
Non,
on n'a pas ce réflexe.
Depuis qu'il y a la haute définition, il ne faut vraiment pas hésiter.
Voilà. Et surtout, on se dit, tiens, j'avais un cathodique de 72 cm, ben, je vais passer à 82, je gagne 10 cm. Pas du tout. Parce qu'en plus, si vous avez un 4 tiers, là, on passe en 16 neuvième, vous vous trouvez avec des écrans qui sont beaucoup plus longs, en fait, que hauts.
Exactement.
Et là, le 82 vous paraît plus petit que le 72, en fait. Que
tout à fait.
Vous
regrette vite de ne pas avoir acheté plus grand.
Donc, si vous avez un peu de place à la maison, dites-vous bien que prendre plus grand, vous ne le regretterez pas.
Voilà, il y a un petit graphique qui représente votre salon dans le dossier qui vous explique d'ailleurs la taille idéale par rapport à la distance de visualisation.
Non, mais c'est très important.
Absolument.
Voilà, essayez de voir grand. Franchement, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Après, bon, on va revenir sur les nouvelles techno, hein, donc le LED. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce dossier, ce qui change, c'est que maintenant, vous mesurez l'empreinte écologique de chaque modèle. Et ça... c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus capital quand on va choisir. Alors, que ce soit une télé ou une machine à laver ou un frigo, ça existe d'ailleurs depuis de nombreuses années.
Exactement.
Hein. Quand on achète un appareil électroménager, vous avez toujours cette notification. Hein. Ou vert, ça va, il ne consomme pas trop, ou rouge, et là, il consomme beaucoup. Ça arrive aussi dans le domaine de la télévision, ça ?
Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore ces informations environnementales sur les téléviseurs. Ça ne
va pas tarder. Hein,
ça ne va pas tarder, voilà. Et donc là, on souhaitait
Devancer un peu tout ça.
Un peu devancer tout ça et commencer à informer notre consommateur, s'il est sensible à l'écologie, parce qu'on sait que tout le monde ne sera pas sensible à l'écologie. Eh bien, de savoir un peu effectivement cette empreinte environnementale. Et on a travaillé sur des bases de calcul aussi de l'ADEME, qui est l'agence de l'environnement, et puis également avec l'INSEE pour la durée sur laquelle on regarde un téléviseur pour pouvoir faire des calculs les plus pertinents possibles. Et puis la chance qu'on a eue, et on a pu faire ce dossier avec cette empreinte écologique, c'est que tous les fabricants utilisent maintenant la même méthodologie pour mesurer la consommation de leurs produits. C'est un nom barbare, ça s'appelle l'IEC 62087, c'est pas facile à placé dans une conversation, mais néanmoins ça nous permet d'avoir exactement une consommation qui correspond réellement à ce que l'on fait chez soi, c'est-à-dire c'est un mélange d'images statiques et d'images dynamiques et tout le monde s'exprimant de la même manière, on a pu enfin eh bien, juger les produits entre eux et leur donner une note qui ne sera pas une note sous forme A, B, C, D et autres, mais on s'est contenté pour l'instant d'une feuille pour les moins écologiques, deux feuilles pour ceux qui sont dans la moyenne et trois feuilles, ce sont les produits qui sont les moins gourmands en énergie.
Alors d'accord, donc là on ne juge que la consommation de l'appareil, il n'y a pas la notion de recyclage, de toute la chaîne en fait, écologique de l'appareil.
Alors c'était le projet de base de tenir compte de toute cette chaîne, seulement c'est extrêmement
compliqué
parce que c'est très difficile d'avoir l'ensemble des matériaux qui composent un téléviseur et puis il faut aller très très loin, il faut aller sur, si on parle d'empreinte carbone, le transport entre la dalle et le lieu d'assemblage, l'essence qu'il a fallu utiliser pour le camion pour le ramener de République tchèque en France, le recyclage du produit, l'emballage en lui-même. La documentation. Donc on a essayé de le faire et on s'est aperçu que c'était très très difficile pour nous d'avoir des réponses. Donc comme la consommation veille plus fonctionnement représente selon les produits entre 65 et 95% de l'empreinte écologique du produit, on a trouvé que c'était suffisamment pertinent pour pouvoir l'exprimer.
Bien sûr. Ça veut dire que j'achète un téléviseur qui a trois feuilles vertes, c'est un téléviseur qui va consommer beaucoup moins que la moyenne des téléviseurs, c'est ça ?
Qui est peu gourmand en énergie, tout à fait. D'ailleurs, on indique cette information en équivalent carbone sur le tableau final. Alors, il faut savoir qu'on a pondéré ça, bien sûr, par la taille, parce qu'il aurait été ridicule de dire que tous les petits écrans sont bons en termes de consommation, et puis tous les grands sont bons. Ça n'avait aucun sens. Quand on achète un écran de 55 pouces, on ne va pas le comparer avec un 19 pouces. Donc, cette consommation a été pondérée par la taille, c'est-à-dire par la diagonale du téléviseur. C'est-à-dire qu'on sait une consommation au pouce. Et donc, ça permet de comparer des petits écrans et des grands écrans.
Bon, alors après, il y a les résultats qui font un peu mal, parce que c'est vrai que, bon, alors, si vous écoutez souvent De Quoi Je Me Mêle, vous savez que moi, je suis plutôt plasma que le LCD. Je crois que Pascal n'est pas très loin de mon avis. Hein, je
veux absolument.
Dire, on a à peu près la même sensibilité, la même, on aime bien les images un peu chaudes et on va dire de comment dirais-je, c'est vrai que l'avantage du plasma, c'est qu'on a une image chaude et
voilà, elles sont douces, elles sont naturelles, elles sont profondes dans les noirs, voilà, donc il y a
voilà, qui se rapproche un peu de la vérité, quoi.
Exactement. Très cinéma.
Et le problème, c'est que bah, le plasma, c'est pas le champion de l'écologie.
Donc voilà, très belle qualité d'image, mais en termes d'écologie, effectivement, ça consomme beaucoup plus qu'un produit LCD.
Beaucoup plus.
D'autant plus par rapport aux nouvelles technologies LED qui sont là peu gourmandes. C'est un avantage de cette technologie. Et là, le plasma, malheureusement, c'est vrai, va consommer, suivant les produits, à taille égale, entre 2 et 3 fois plus.
Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça va condamner cette technologie, Pascal ?
Non, parce qu'en plus, elle évolue sans arrêt. La consommation a déjà été considérablement réduite par rapport aux précédentes générations. Et puis, les fabricants de plasma, il en existe encore 3 majeurs, qui sont Panasonic, Samsung et LG, continuent à faire des efforts sur la baisse de consommation. Aujourd'hui, c'est une question de rendement. C'est finalement donner sur l'image, exploiter un maximum de la consommation que j'ai pris sur le secteur. En fait, voilà, il ne faut pas que l'appareil chauffe beaucoup. Il faut qu'il donne beaucoup de sa qualité d'image, beaucoup de puissance. Et donc, voilà, ça s'améliore d'année
en année. On n'arrivera jamais au niveau du LCD.
C'est difficile de dire jamais. En tout cas, la pente de consommation à taille constante est vraiment impressionnante sur le plasma parce qu'ils ont baissé de près de 50%. Ça veut dire qu'un plasma a été encore plus gourmand il y a un an.
Ouais.
Je crois que vous possédez un écran plasma, François.
Oui, vous aussi d'ailleurs. Il est très très grand.
Ça veut dire que le compteur tourne.
Plus grand que le mien d'ailleurs. Le compteur tourne. Faites attention. Pascal, cette année 2009, en matière de vente d'écran plat, on va battre des records.
Oui, c'est une année record, tout simplement, parce que tous ceux qui changent leur téléviseur aujourd'hui, ils n'ont guère d'autre choix que d'acheter un écran plat. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de renouvellement par les pannes des anciens téléviseurs, beaucoup de renouvellement par un envie de changement de design aussi, parce que c'était quand même pas très beau, un téléviseur cathodique.
La TNT.
La TNT qui est arrivée, TNT HD. Le second équipement également, qui est donc le téléviseur plat dans la chambre ou dans un bureau. Voilà. Ce qui fait que l'année est une année record. Et d'autant plus impressionnant que c'est une année sans événements sportifs. On a vécu 2009, changeuses olympiques, sans Coupe du Monde. Enfin, voilà,
et on sait que les événements sportifs majeurs
sont très porteurs,
boostent les ventes.
Exactement.
C'est-à-dire que là, par exemple, pour la Coupe du Monde 2010... avec ou sans la France, alors il faudrait que la France y arrive.
Alors néanmoins, il faut noter que s'il y a la France, ça sera très différent au niveau des ventes. Pour les fabricants, la qualification de la France a extrêmement d'importance.
D'accord.
C'est très très important pour les ventes.
Voilà, donc la Coupe du Monde est déjà provoque un frissonnement, on va dire. Hein. Mais alors si il y a la France et qu'il progresse, j'imagine, là, c'est
on devrait atteindre des sommets.
C'est incroyable, hein, c'est fou. Hein. Bon. Maintenant, on va revenir au LCD, parce que le LCD, c'est une technologie qui évolue. On parle beaucoup de technologie LED depuis de nombreux mois. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis en plus, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas un standard, le LED. C'est-à-dire que vous pouvez avoir autant de technologies LED que de constructeurs.
Voilà,
pratiquement.
Il y a 4 technologies LED aujourd'hui. Et puis là où je pense qu'il faut qu'on fasse une petite correction, effectivement, c'est que quand on parle d'LED, on a l'impression que c'est une nouvelle technologie d'affichage. Or, ce n'est pas de l'OLED qui est réservé à des petites tailles d'écran.
Ce sera peut-être la télé du futur,
astronomique peut-être. Mais là, il s'agit de rétroéclairage. Donc, il faut bien se rappeler qu'il y a aujourd'hui 2 types de produits dans ce dossier. D'ailleurs, comme tout ce que vous voyez dans les magasins, il y a des plasmas et des LCD. Et simplement, puisqu'on parle des LCD dans ce cas, les LCD nécessitent un rétroéclairage. Avant, c'était des tube qu'on appelle le CCFL, et maintenant ce sont des diodes LED. Alors est-ce qu'il n'y a qu'une sorte? Non, il y en a effectivement 4 sortes. Il y a ce qu'on appelle du LED direct. Ça veut dire que les diodes sont placés derrière la dalle plasma. Il y en a entre 500 et 1500 des diodes, donc ça aura d'ailleurs un impact sur la consommation, parce que plus on va mettre de diodes qui vont générer de la lumière, plus ça va consommer. Hein. Donc c'est un compromis, une nouvelle fois à trouver. Donc il va y avoir ces LED qui
mais
sont
plus
placés
on a diodes,
directement.
Peut-être qu'on gagnera plus en contraste ou en qualité d'image.
Alors voilà, on va pouvoir faire déjà, quand c'est des LED directs, on va pouvoir, dans certains cas, faire ce qu'on appelle du local dimming. Ça veut dire éclairer à l'endroit qui nous intéresse. Ça veut dire une zone très lumineuse entourée de noir sur l'écran, eh bien on éteint tout ce qui est autour de la zone lumineuse et on allume très fortement les LED à l'endroit où il y a une zone lumineuse, ce qui permet d'avoir des rapports de contraste assez extraordinaires. Ça, c'est ce qu'on appelle le local dimming, en fait l'éclairage local.
Technologie qui est adoptée par qui ?
Alors, le local dimming, on en trouve globalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que certains constructeurs sont encore hésitants, c'est-à-dire font plusieurs de ces technologies. Par exemple, Philips, on en reparlera tout à l'heure sur le LED Edge, mais fait des écrans avec du local dimming. Sony également.
Dans un autre côté, Samsung, non, hein ?
Non, Samsung fait du LED Edge, on en reparlera juste après.
Oui.
Sharp fait par exemple du rétroéclairage LED. mais sans avoir cette notion d'éclairage adaptatif de zone.
D'accord.
Ça veut dire qu'eux, ils vont mettre moins de LED, du coup, ils vont consommer très peu. Sharp fait partie des recordman de consommation très basse, mais par contre, n'est pas capable de jouer sur la gestion de la luminosité à un endroit très précis. Sony, sur d'autres de ses produits, fait du LED direct, mais avec des diodes qui ne sont pas blanches, mais rouges, vertes et bleues, pour améliorer la couleur.
D'accord.
Mais de ce fait également, ils sont obligés d'en rajouter davantage. Donc, ce que l'on gagne d'un côté en termes de colorimétrie, eh bien, on le perd en termes de consommation. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'idées sur les LED directs.
Il y en a une qui sort du lot ou pas ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est le local dimming, c'est-à-dire de se dire, je peux éteindre là où il n'y a pas de lumière. Avec un petit inconvénient, c'est que si j'ai une petite étoile dans un ciel et que j'ai éteint malheureusement mes diodes derrière parce que mon écran a considéré que c'était une zone noire, eh bien, la petite étoile, je ne vais pas la voir.
Elle disparaît.
Voilà. Ouais, donc, le fait de vouloir faire beaucoup de dynamique d'image en ayant des blancs intenses et des noirs profonds, oui, puisqu'en fait, il n'y a plus aucun rétroéclairage, fait que parfois, certains détails disparaissent. Donc, il n'y a jamais la perfection, de toute façon.
Et puis, on peut imaginer aussi que si, par exemple, cette petite étoile, je veux l'allumer, je vais mettre une LED dessus, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que l'étoile qui va être allumée, il y a tout le tour de l'étoile aussi.
Ça va faire une petite auréole autour de cette étoile, puisqu'on va éclairer plus largement que l'étoile en elle-même.
C'est pas facile, ça.
Donc, c'est assez délicat et ça demande beaucoup de maîtrise. Alors, les fabricants arrivent à le faire très, très bien, mais nous, on va, parce qu'on est bien sûr vicieux, n'est-ce pas, avec nos appareils de mesure, et on va aller mesurer ce petit halo quand il existe. On va aller mesurer le noir, le blanc, et même un noir qui devient de plus en plus important sur un écran blanc, c'est-à-dire un petit cube qui grossit sur l'image. Et on va voir justement comment ça se passe au niveau du téléviseur. C'est un test terrible pour les téléviseurs.
D'accord.
Mais ça nous permet d'avoir des informations sur la qualité du contraste.
Bon, on a fait le tour de la technologie.
Et puis après, il y a le LED Edge, voilà. Edge. Donc sur le LED direct, c'est fait. Et le LED Edge, ce sont des diodes qui sont sur les bords de l'écran, qui permettent d'avoir ces écrans très très fins. On les a tous découverts avec la série
Samsung. Hein,
6000,
qui est
voilà, c'est Samsung qui a vraiment choisi. Mais ce qui est amusant, c'est qu'une nouvelle fois, Philips, LG, LG fait du LED direct et fait du LED Edge. Donc voilà, les constructeurs, Philips et LG, par exemple, font les deux technologies. Donc n'ont pas encore totalement décidé où ils considèrent qu'il y a des avantages dans l'une et dans l'autre. Il n'y a finalement que Samsung qui a décidé, pour aussi des raisons d'esthétique, parce que les écrans Samsung font 3 cm d'épaisseur, et ceci s'est permis par l'adoption des LED en bordure de l'écran, qui sont donc les LED Edge, et qui arrivent, et c'est un exploit, à avoir malgré tout une uniformité assez étonnante, puisque nous mesurons aussi l'uniformité. Bien sûr, on imagine que lorsque les LED sont sur les bords de l'écran, c'est
difficile. Oui, le centre doit être moins bien éclairé.
Et pourtant, par des systèmes de tunnels optiques, des sortes de petits miroirs, on arrive à emmener suffisamment de lumière
et on voit
sur le centre de l'écran.
Ce qui fait qu'il y a autant de lumière au centre comme que...
Nos yeux ne le voient pas, mais le pire, c'est que nos appareils de mesure qui sont beaucoup plus précis que nos yeux n'arrivent même pas à le voir non plus.
Donc c'est pari gagné pour
C'est quand même pas mal. Alors par contre, là, on ne peut pas, bien sûr,
avoir ce fameux local dimming.
Exactement.
Voilà. Là, on retombe sur ce problème.
Donc attention, la LED, ce n'est pas donc une nouvelle technologie d'affichage, c'est une technologie de rétroéclairage des écrans à cristaux liquides.
Voilà, qui permet donc de gagner en qualité à certains...
Donc tout ceci est expliqué d'ailleurs sur le dossier pour bien comprendre cette technologie.
Pascal, il est temps maintenant de nous donner votre petite sélection concernant ce dossier. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup d'écrans testés. Bon, quels sont ceux qui sont incontournables pour cette fin d'année 2009?
Alors, on va parler de séries, parce qu'après, il y a bien sûr dans chacune des séries des marques, il y a différentes tailles d'écran avec du 42, du 46, 55 pouces, donc on parle des séries. On parlait de LED RVB tout à l'heure avec des produits
rouge-vert-bleu,
absolument. Il y a la série X4500, alors, ce n'est pas du tout le plus fin des écrans. Hein. Il a plutôt de l'embonpoint au niveau de son épaisseur, mais au niveau de la qualité d'image, c'est un produit assez remarquable. Donc, série X4500, donc les prix dépendent bien entendu
de la taille de
l'écran. Ouais. Hein. On a également, on va dire, un nouveau venu sur une marque qui a énormément progressé, qui est LG, qui a fait une série qui s'appelle le SL9000, qui est une série en LED Edge, donc ils rejoignent leur compatriote Samsung. Et cette série SL9000 donne de bons résultats de mesure et également, eh bien, comme tous les Edge, des très bons résultats en termes d'écologie. Mmh. Samsung, bien entendu, avec ses séries qui n'ont pas changé depuis le printemps. Hein. Samsung a décidé de ne pas changer ses gammes pour l'automne. Et puis, on ne peut pas les blâmer puisqu'ils étaient tellement en avance au printemps que ces produits sont tout à fait d'actualité, séduisent toujours autant les acheteurs. Donc, c'est les séries qui s'appellent B6000, 7000 ou 8000, suivant qu'ils sont interactifs. Et puis, on va donner un petit coup de chapeau. On a assez peu rarement de parler de cette marque quand on parlait d'écran. Eh bien, je vais parler d'un Philips. C'est la série qui s'appelle la 8664. Les références ne sont pas toujours très sexy. aussi chez Philips. Mais c'est le seul produit qui réussit à associer en LED Edge des bords fins, vraiment des bords très très fins, et une épaisseur très fine. Donc c'est le premier produit qui, avec une qualité de fabrication assez exceptionnelle, donne vraiment l'impression d'être fin dans tous les sens, et autour de l'écran et en épaisseur.
Et ça ne se fait pas au détriment de la qualité d'image.
Et la qualité reste très bonne, puisque c'est un produit qui a obtenu les 4 étoiles, donc la note maximum, et en plus de ça, il a obtenu les 3 petites feuilles vertes, donc il est en plus écologique. Donc coup de chapeau à Philips sur ce produit.
Bon, en revanche, si je vous demande un seul produit, celui que vous choisiriez, on ne va pas parler de considérations économiques là, hein, mais bon, vous avez envie de vous faire plaisir. Pascal, vous avez envie de vous offrir un écran, lequel prendriez-vous ?
Alors, on a
lequel
osé,
choisiriez-vous ?
On a osé aller jusqu'à une taille indécente sur ce dossier, puisque pour la première fois figure un 65 pouces, qui est un écran Panasonic le 65V10, qui a un radar donc qui montre l'équilibre du produit assez exceptionnel. Il faudra débourser un petit peu, soit, mais un écran de 65 pouces à la maison, c'est exceptionnel. Et le produit lui-même...
On est à combien ? 6 000 euros ?
On est à 6 000 euros, mais il suffit de se souvenir quelques années en arrière de ce qu'on avait pour 6 000 euros. Là, attention, 65 pouces, c'est 1,65 m de diagonale.
On est vraiment, voilà, c'est le grand spectacle.
C'est l'alternative à la vidéoprojection, véritablement.
Avec une qualité d'image qui est...
Full HD, tous les systèmes de connectivité, bien sûr, qu'on peut attendre sur ce genre d'écran. Un produit vraiment remarquable. C'est du plasma, et ça montre que le plasma en a encore sous le pied.
Bon, en matière de consommation, là, on doit être pas mal, non ?
Ouh là là, on n'en parle même
pas. On n'en parle pas. Il n'a pas beaucoup de petites feuilles vertes.
Il a une feuille verte.
Et encore, elle est chancelante, hein. Merci Pascal.
Merci François.
Et puis bien sûr, si vous voulez rentrer en détail, si vous voulez avoir plus d'informations concernant tous ces écrans, je vous invite à retrouver ce dossier donc dédié aux écrans qui est d'ores et déjà dans les Fnac.
Absolument.
Qui
voilà,
est là.
Tout à fait.
Et qui est distribué gratuitement. Hein, donc
le plus gros tirage des dossiers Fnac, 700 000 exemplaires
pour ce dossier. Vous vous rendez compte ? Merci Pascal.
Merci François.
On se retrouve la semaine prochaine. Quelque chose me dit que la semaine prochaine, on va un petit peu voyager. Mais bon, on en parlera la semaine prochaine. Vous restez avec nous. De quoi je mail, la suite sur rmc.fr dans un petit instant.
rmc.fr, de quoi je mail, François Sorel.
Le retour de quoi je mail sur rmc.fr. Merci d'être là. L'actualité des nouvelles techno, vous le savez, c'est toutes les semaines. Et nous allons maintenant découvrir un concept que vous avez peut-être testé il y a quelques semaines de cela, peut-être même encore aujourd'hui, avec le site My Major Company. On rappelle le concept, hein. On vous fait découvrir des artistes, vous misez de l'argent sur l'un de ces artistes, et puis si cet artiste explose, eh bien non seulement vous avez la fierté de vous dire « Ah tiens, celui-là, je l'ai soutenu », mais en plus vous pouvez gagner de l'argent. Eh bien ça, c'est le concept My Major Company, un aspect communautaire en fait pour soutenir des personnalités qu'on aime. Eh bien imaginez la même chose, non plus dans le domaine de la musique, mais dans le domaine du cinéma. Eh bien on va en parler avec mon invité Simon Istolainen qui est là. Bonjour Simon.
Bonjour François.
Alors Simon, vous êtes le cofondateur de People for Cinema, dont on va évoquer le concept dans quelques instants, mais on va aussi parler de My Major Company, puisque c'est vous qui avez aussi créé en quelque sorte le concept de My Major Company. C'était quand ? C'était il y a quoi ? Il y a un an ou deux, ça, non ?
Oui, j'ai monté My Major Company il y a 2 ans. Voilà. Avec Michael Goldman, nous étions tous les deux.
Qui est le fils de Jean-Jacques Goldman, un petit chanteur pas très connu.
Exactement, hein, qui débute.
Voilà, qui débute. Donc, en fait, ce qui vous a fait exploser aux yeux du grand public et ce qui a fait votre célébrité, c'est l'artiste Grégoire, hein, qu'on a pu très vite en fait, découvrir sur votre site. Et puis, ça a été un carton, Grégoire.
Effectivement, l'aventure avec Grégoire a été idyllique de bout en bout, parce que donc nous avons lancé le site en automne 2007. Grégoire a été le premier artiste produit par les internautes avec 347 producteurs.
Ouais. 347 internautes ont donc misé sur Grégoire, c'est
exactement, ça ? Exactement, ils ont misé une somme totale de 70 000 euros pour qu'il puisse commencer sa carrière et faire son album.
D'accord.
Donc ça a été très rapide, il est allé en studio le lendemain de l'accession à la jauge, et c'est ensuite une success story, puisque aujourd'hui on est à plus de 700 000 albums vendus, c'est la plus grosse vente de l'année 2008 en France. Donc ça a permis à la fois au système My Major Company de s'installer, aux internautes qui ont misé sur lui de gagner plus de x10 par rapport à leur mise initiale. Donc voilà, c'est vraiment la success story de My Major dont on est très fiers.
C'est-à-dire que par exemple, un internaute qui avait misé 100 euros sur Grégoire en a gagné
1000,
c'est ça ?
Aujourd'hui, oui. Et l'exploitation de l'album n'est pas terminée.
D'accord, oui, oui, puisque ça continue de vendre, hein, ouais. J'imagine.
Bien sûr.
Et alors, la personne qui a gagné le plus d'argent, c'est vous dans l'histoire ou non. C'est un internaute?
Non, un internaute a misé 6000 euros sur Grégoire, donc là, ça fait un beau petit pactole qui commence à tomber. Donc voilà, pour lui, c'est aussi une success story.
Et pour Grégoire, c'était un partage de revenus différent aussi? Il a moins gagné qu'un autre artiste ou c'est équivalent?
Non, il a des conditions avec nous qui font qu'il a gagné relativement plus qu'un artiste dans le circuit normal. Tout simplement parce que notre promesse de valeur était aussi de mieux rémunérer les artistes. Donc on l'a appliqué aussi.
Pour les motiver à venir sur votre plateforme.
Exactement, puisque quand on se lançait, on était dans un marché très concurrentiel. Et donc pour prendre des talents, il fallait être assez agressif aussi au niveau des conditions.
Taper fort avec Grégoire d'un coup comme ça, c'est aussi un peu difficile. Parce que là maintenant, il va falloir assurer pour la suite, avoir d'autres artistes à produire qui vont avoir tout autant de succès, voire plus. Parce que depuis Grégoire, il y a eu d'autres découvertes intéressantes et d'autres succès. Pas aussi grand que Grégoire.
Non, il y a eu un mini succès d'une artiste hip-hop qui s'appelle Agony. Et là, il y a plusieurs sorties sur 2010 qui sont très prometteuses, donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment prouver la viabilité du modèle et sa pérennité dans le temps. On croit vraiment, nous, en ce modèle communautaire, fondamentalement, donc j'espère que ça marchera aussi sur les autres artistes.
Alors c'est amusant parce que en fait ce modèle communautaire d'internautes qui mise de l'argent sur des personnalités, alors bon, évidemment il y a le cinéma, on va en parler dans un instant, il y a la musique, il y a aussi le football, tiens, c'est étonnant, il y a un site qui s'appelle myfootballplayer.com qui vous propose de, je sais pas si vous êtes au courant
si,
de ce
site. Si, mais c'est un site espagnol, il me semble.
Je crois bien, oui, c'est ça, c'est un site espagnol qui vous permet de miser en fait sur un joueur. Voilà, qui s'appelle Daniel Forlandzas, qui est norvégien et qui paraît-il est très prometteur. Voilà, donc encore de l'argent.
J'ai suivi, ça existe aussi pour les tennismen maintenant et également pour acheter des clubs de foot en Angleterre, myfootballclub.com.
C'est dingue, hein, c'est cette nouvelle mode maintenant de vouloir investir sur des personnalités dans divers domaines. Hein.
En fait, c'est une nouvelle place de marché du divertissement sur Internet.
Mais encore une fois, ça prouve que l'internaute peut aller vraiment très très loin hein, dans la création et dans son investissement hein, jusqu'à mettre de l'argent en fait, pour un artiste.
Complètement, et ça contregarde totalement tout le discours ambiant sur l'Internet, le piratage. C'est totalement à l'encontre de ça, donc c'est vraiment vertueux, je trouve.
Ouais. Reste à savoir maintenant si Grégoire a été un artiste qui a été beaucoup piraté ou pas.
Extrêmement difficile.
Enfin, cela dit, avec 700 000 albums, on peut dire quand même qu'il y a beaucoup de gens qui ont préféré acheter son disque.
Voilà, ça reste une part marginale dans le compte d'exploitation global de l'artiste.
Bon, alors Simon Estolainen, vous vous êtes pas arrêté, je le disais, à My Major Company. Vous vous apprêtez à lancer un site qui s'appelle People for Cinema. Alors, première chose, il est lancé quand, ce site?
Ce site ouvre lundi 16 novembre.
D'accord, donc là, bientôt.
Très rapidement.
Le concept... La même chose que pour My Major Company, on va miser sur non pas un chanteur mais sur un film, c'est ça?
Alors oui, on va proposer aux internautes de prendre des parts dans les films bientôt à l'affiche. C'est-à-dire que les internautes vont pouvoir accéder au financement de projets d'envergure et découvrir leurs coulisses et gagner de l'argent sur leur exploitation. Donc typiquement, vous pouvez miser sur un film qui sort dans un ou deux mois. Vous allez découvrir toutes les coulisses de son lancement, vous allez être invité aux avant-premières, vous allez être invité aux fêtes de lancement.
Fera partie un petit peu de la famille de la production de films, c'est ça?
Exactement, sauf à une différence près quand même avec My Major Company, c'est que dans My Major, on vous propose de découvrir des jeunes talents et de leur donner le coup de pouce financier qui leur permet d'exister. Alors que là, nous, on s'associe à des grands studios sur des films déjà bien avancés, montés, parfois déjà tournés. Et la promesse que l'on fait, c'est de pouvoir accéder aux coulisses du film et de gagner de l'argent sur son exploitation en salle, en DVD, en télé, donc tous les mandats sur lesquels...
Votre concept se rapproche, je trouve, quand même assez fortement de tout ce qui est les paris sportifs, etc. Parce qu'on finalement, on parie sur quelque chose. On est d'accord. Pour Grégoire, bon, on pariait une certaine somme d'argent pour que, évidemment, il puisse fonctionner. Vous vous sentez un petit peu dans ce domaine-là? On n'est pas loin de ce concept de pari?
Juridiquement, on est totalement dans un autre schéma. En revanche, au niveau marketing, au niveau de la promesse qu'on fait aux internautes, on est effectivement très très proche du pari, puisque finalement, quand un film sort, vous pouvez, suivant le nombre d'entrées en salle, savoir combien vous allez gagner. Et la temporalité est très courte. Vous pouvez miser jusqu'à la veille de la sortie en salle chez nous. Donc vous pouvez miser le mardi à 23h59 et le mercredi soir, vous avez déjà des indicateurs qui vous permettent de savoir ce que vous allez gagner. Donc c'est très rapide.
C'est étonnant, hein, le monde du cinéma, on sait pratiquement à la première séance ce que va, quelle carrière va avoir le film.
C'est ça.
Fou ça.
C'est
hein.
ça. Il y a même des théories selon lesquelles la première séance à l'UGC Léa le mercredi à 11h
oui, est représentative de ce qui va se passer.
Voilà, du cycle du film.
C'est effrayant hein, d'ailleurs. Oui. Hein. Pour le producteur, il sait à 16h ce qui va se passer.
C'est ça. Et d'ailleurs, les distributeurs de cinéma organisent tous les mercredis soirs des soirées chiffres où ils établissent un premier bilan qui permet de savoir quelle va être la durée du film et son avenir.
Donc, je vais sur People for Cinema à partir de lundi, on le disait. Je vais voir des bandes annonces de films, d'accord ? Parce que là, pour débuter, vous proposez en fait aux internautes des films qui sont déjà tournés, hein, c'est ça ? Qui vont bientôt sortir ?
La plupart, il y en a encore un qui est en tournage ces jours-ci. Nous sommes associés à 3 distributeurs d'envergure, c'est Europacorp, qui est donc fondé par Luc Besson et Pierre-Ange Le Pogam, Mars Distribution et Wild Bunch, donc qui sont aujourd'hui des distributeurs de premier plan en France. Nous avons 5 films. Il y en a 2 qui sont des comédies, 2 films américains et 1 drame. Donc il y a vraiment un peu tous les genres.
Oui.
Et effectivement, nous, notre intérêt, c'est d'avoir un maximum de contenu à présenter aux internautes, puisqu'il nous semble que simplement sur la base d'un scénario, d'un synopsis, il est très dur de savoir à quoi va ressembler un film. Là où dans la musique, sur une maquette, on sait plus ou moins ce que va donner un artiste. Donc notre intérêt est d'arriver le plus tard possible dans la production.
Pour qu'on sache vraiment à quoi va ressembler le film. En fait.
Exactement.
Comme pas se baser que sur le scénario.
Non, c'est vraiment... C'est assez impalpable un scénario. Ce serait un pari encore plus fort et plus difficile à faire. Donc pour nous, c'est vraiment un divertissement, du contenu, des exclusivités, des événements et de l'argent à gagner.
D'accord. Mais prenons l'exemple donc de People for Cinema. Qu'est-ce que j'achète sur par exemple, je vais voir la bande-annonce d'un film là, qui va sortir. J'achète quoi en fait ? Je mise sur quoi ?
Alors vous misez sur son lancement, c'est-à-dire vous allez participer au financement de la diffusion du film, à sa commercialisation.
Parce que le financement du film, c'est fait déjà, puisqu'il est tourné.
Oui, le film, alors la production du film est financée, en revanche, sa distribution ne l'est pas encore.
D'accord. Donc là, je mise sur la distribution du film. En fait.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Ce qui vous permet, en retour, d'être le premier à gagner de l'argent sur la diffusion en salle, notamment, puisque le distributeur dans le cinéma récupère tous les revenus en premier avant le producteur.
C'est-à-dire qu'en plus, si on fait le parallèle avec My Major Company, bon, vous le disiez, réaliser un album, ça coûte combien ? Pour Grégoire, c'était 70 000 euros, c'est ça ?
70 000 euros, ça finance à la fois l'album et le clip.
Voilà.
Donc c'est vraiment le package de lancement.
Bon, pour le cinéma, 70 000 euros, vous avez quoi ?
Ah, ce serait dérisoire.
Vous avez rien du tout, quoi. Vous avez l'affiche.
Un film coûte en moyenne en France, si je parle vraiment dans les métriques françaises, un film coûte environ 5 millions d'euros.
D'accord, 5 millions d'euros. Donc, c'est impossible aujourd'hui, par exemple, à vous seul, avec ce site, de supporter l'investissement d'un film entier.
Non,
c'est pas le but, en plus.
Non. Et puis
ça pourrait venir ou pas, à votre avis ?
Je pense que les spécificités de la production cinématographique font que c'est pas tellement compatible avec une modalité... Enfin, pardon, excusez-moi, avec un flux Internet, puisque la production d'un film prend 2 à 3 ans. Et je pense que pour l'internaute, ce serait extrêmement long de baigner dans ce cycle-là qui n'est pas du tout intéressant, il n'y a pas de contenu.
Oui, voilà, c'est ça. Oui. C'est très très long.
C'est très très long.
La période de gestation d'un film est longue.
Exactement, c'est un travail d'orfèvre, tout est dans le détail. Oui. Voilà, donc pour nous, il est vraiment beaucoup plus intéressant d'impliquer l'internaute dans le lancement du film.
Et puis il y a un aspect plus ludique aussi.
Et c'est beaucoup plus ludique. Et surtout, le retour sur investissement et le retour sur expérience est très rapide. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez miser la veille de la sortie en salle et le lendemain, vous savez déjà ce que vous allez gagner. Donc. C'est cet aspect-là qui nous intéresse.
Donc, dans les jours qui suivent, là, votre site va être mis en route. Combien de films je vais pouvoir miser de l'argent, en tout cas investir un petit peu d'argent sur combien de films ?
Il y aura 5 films au lancement et notre première sortie s'appelle Le Siffleur. C'est un film qui est distribué par Europacorp et qui sort le 6 janvier avec Fred, Thierry Lhermitte et François Berléand. Donc
une belle distribution quand même.
Une belle distribution, un film qui sort dans pas longtemps et on demande 30 000 euros sur le projet.
Voilà, 30 000 euros qui vont servir en fait à faciliter la distribution, c'est ça ?
Voilà, et principalement sur Internet.
Sur Internet, d'accord. Donc c'est une petite partie de l'investissement d'un film qui a coûté des millions d'euros. Hein.
Oui, tout à fait.
Et alors là, bon, moi je suis internaute, je veux miser sur ce film, je peux miser combien par exemple ?
Vous pouvez miser à partir de 20 euros jusqu'à 5 000 euros.
D'accord. Et les risques, c'est quoi ? Est-ce que je peux tout perdre ? Si par exemple le film se casse la figure, ça arrive. Il y a des films qui font des bides monstrueux.
Bien sûr.
Qu'est-ce qui se passe ? Je perds tout ?
Non, l'intérêt du modèle qu'on a construit avec les distributeurs, c'est que vous ne perdez jamais votre chemise. Donc même si le film est un four, vous récupérez à peu près 50% de votre investissement. Donc
par exemple, je mise 1000 euros, je perdrai 500 euros.
Exactement. Et s'il marche très bien, on a institué un seuil qu'on appelle le seuil jackpot, C'est-à-dire qu'à partir du moment où un film atteint un certain nombre d'entrées en salle, on vous donne des bonus. Donc vous pouvez arriver à x4 à peu près de ce que vous avez misé.
x4, d'accord.
Donc 4000.
Et cet argent, je le toucherai combien de temps après la sortie du film ?
Alors les premiers revenus arrivent très rapidement puisque ce sont ceux de la salle étant le plus gros de l'exploitation du film. Et ça arrive 90 jours après
d'accord. La sortie. D'accord. Après, on ne touche pas de dividendes sur la distribution du film en DVD, etc.
Si. Alors, au film Le Film, on vous précise sur quoi vous gagnez, c'est vraiment indiqué clairement dans le site.
Oui.
Et pour parler du siffleur, vous gagnez sur la salle et sur les DVD et la VOD.
Pas mal.
Voilà. Et sur certains autres films, vous avez aussi la télé et l'étranger.
Eh bien, dites-moi. Ah oui, on a l'impression un petit peu d'avoir un gros cigare dans un gros fauteuil en cuir. Dire tiens, voilà, oui, j'ai misé quelques euros sur un film. C'est assez sympa. On peut aller jusqu'où, en fait, à votre avis, dans cette surenchère de faire participer les internautes au financement de produits. On parlait tout à l'heure de foot, de musique, de cinéma. Il y a d'autres projets qui pourraient arriver ?
Je pense qu'il y a, deux thématiques à prospecter, c'est la mode et les comiques.
Tiens, ah oui, miser sur un comique, oui. En devenir, c'est ça ?
Exactement.
Comme un poulain qu'on aimerait bien soutenir parce qu'il nous fait rire, etc.
Voilà. Je pense que dès lors qu'il y a une communauté qui s'agrège autour d'un projet, que ce soit un projet cinématographique, musical, footballistique, et dès lors qu'il y a besoin de financement, ça peut fonctionner. Après, il faut vraiment garder en tête le fait que on finance des projets, mais il faut aussi qu'ils marchent derrière et qu'ils rapportent de l'argent aux internautes.
Mmh.
Donc on ne peut pas tout financer. My Major Company, par exemple, sur 10 000 artistes qui nous avaient fait des candidatures, on en a pris 10.
Mais oui.
Donc il faut toujours éditorialiser. Certains. Moi, je suis vraiment un fervent défenseur de l'éditorialisation.
Bah, c'est-à-dire que c'est la meilleure manière de vendre aussi, entre guillemets, de mettre en avant l'artiste le concept que vous voulez présenter.
Bien sûr, ça. Grégoire n'aurait pas rejoint My Major s'il avait été noyé parmi 10 000 artistes.
Le deuxième album de Grégoire, enfin, le futur de sa carrière passera par My Major ou c'est terminé là, maintenant c'est, votre boulot est fait ?
Non, c'est pas du tout terminé, au contraire, pour lui c'est un cercle vertueux, il est tout à fait conscient de la chance que lui ont offert ses internautes producteurs,
ouais,
donc il va continuer sur cette voie, enfin, en tout cas c'est ce qu'il a communiqué récemment.
D'accord, Simon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Simon Estolainen, donc, qui est à la fois le cofondateur, on le disait, de My Major Company, mais aussi de People for Cinema, qui est lancé dans quelques jours, hein, et vous pourrez tester, dites-nous un petit peu ce que vous en pensez. Merci beaucoup,
merci
Simon,
à vous.
Et bon vent, bonne merci. Chance. De quoi je me mêle, c'est terminé, merci de nous avoir suivis, on vous souhaite bien sûr un excellent week-end, n'hésitez pas à nous écrire, l'adresse mail, hein, fsorel@rmc.fr, vous pouvez nous écrire aussi par le biais du site web rmc.fr, rubrique De quoi je me mêle, ou bien sur le groupe Facebook de quoi je me mêle, portez-vous bien, salut à tous, à la semaine prochaine.